Chers collègues, bonjour. Nous allons maintenant discuter des résultats d'un essai randomisé de dépistage du cancer de la bouche, très important, mené dans le district de Trivandrum, Kerala, Inde, et financé par l'Association for International Cancer Research, Écosse, Royaume-Uni. Il s'agit d'un projet de collaboration entre le Regional Cancer Center de Trivandrum et le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon, France. Les résultats de cette importante étude ont été publiés récemment dans The Lancet, et ont également été présentés lors d'un séminaire interne au Centre international de recherche sur le cancer. Nous allons aborder en détail les résultats au cours de cette présentation. Vous savez certainement que le cancer de la bouche est l'un des cancers les plus importants à l'échelle mondiale. Il s'agit du 11e cancer le plus fréquent. Environ 274 000 nouveaux cas et 128 000 décès sont enregistrés chaque année. Le risque de cancer de la bouche est particulièrement élevé dans certaines régions du monde, telles que l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Europe de l'Est et certaines régions de France et d'Amérique latine. Deux tiers des cas de cancer de la bouche sont recensés dans les pays en voie de développement, et il a été clairement démontré que le cancer de la bouche est dû à la consommation de tabac et d'alcool. Les personnes qui fument, qui mâchent du tabac ou qui consomment du tabac sous quelle forme que ce soit sont exposées à un risque très accru de cancer de la bouche. L'arrêt du tabac et une consommation modérée d'alcool peuvent permettre de prévenir le cancer de la bouche. Autre élément important, à l'instar du cancer du col utérin, les cancers invasifs de la bouche sont précédés de lésions précancéreuses bien déterminées, ce qui permet de détecter la maladie à un stade très précoce de son histoire naturelle, c'est-à-dire à un stade précancéreux ou un stade de cancer invasif préclinique. Le cancer de la bouche est l'un des rares cancers dont la cause est bien connue. Ces cancers peuvent donc être évités en éliminant les facteurs de risque et détectés relativement tôt du fait de cette longue et intéressante histoire naturelle. Voici un tableau de référence clinique destiné à faciliter l'inspection visuelle de la bouche. Ce tableau reprend essentiellement les différents types de lésions précancéreuses, telles que la leucoplasie homogène, la leucoplasie ulcéreuse, la leucoplasie verruqueuse, la leucoplasie nodulaire, l'érythroplasie et les états précancéreux tels que la fibrose sous-muqueuse buccale, le cancer invasif précoce et le cancer invasif avancé. La leucoplasie est essentiellement caractérisée par des taches blanches qui ne peuvent pas être enlevées par frottis. L'érythroplasie est essentiellement caractérisée par une lésion rouge d'apparence veloutée. Dans le cas de la fibrose sous-muqueuse buccale, la totalité de la cavité buccale et certaines zones de la muqueuse buccale deviennent fibreuses, ternes et perdent leur apparence brillante, ce qui se traduit par une contraction fibrotique, des déformations, des difficultés d'élocution et de déglutition. Les cancers invasifs de la bouche sont bien sûr caractérisés par un ulcère, d'abord non douloureux, mais qui devient douloureux à mesure que l'ulcération progresse. Puis il commence à atteindre les os et la peau adjacents, avant de s'étendre aux ganglions lymphatiques de la région cervicale. Il est très intéressant d'examiner les perspectives actuelles de survie après un cancer de la bouche. Prenons le cas du cancer de la langue. En Inde, les taux de survie à 5 ans dépassent à peine les 30%. En Thaïlande, ils varient entre 18 et 37%. Même dans les pays dotés de systèmes de sécurité sociale plus développés, tels que Singapour ou l'Europe, la survie à 5 ans excède à peine les 40%. Le cancer de la bouche compte donc parmi les cancers associés à un pronostic très défavorable, pronostic qui n'a pas été amélioré au cours des dernières décennies. Cela traduit probablement le fait que le cancer de la bouche est habituellement détecté à un stade avancé, pour lequel les résultats ne sont pas satisfaisants. Cette diapositive présente les taux de survie à 5 ans après un cancer de la cavité buccale, autre que le cancer de la langue. Ces taux ne diffèrent pas de ceux du cancer de la langue. Dans les régions de l'Inde, la survie à 5 ans dépasse à peine les 40%. En Thaïlande et à Singapour, la situation est la même, et dans les pays européens, la survie à 5 ans avoisine les 44%. Aux États-Unis, dans la population caucasienne, la survie est d'environ 62%, contre 40% environ dans la population noire. Cela montre encore une fois que les perspectives de survie ne sont pas brillantes après un cancer de la cavité buccale. Il ressort très clairement que la survie à 5 ans après un cancer de la bouche n'a connu aucune amélioration au cours des trois dernières décennies. Les données sont issues du CIR aux États-Unis, Surveillance, Epidemiology and End Result Program. Dans la population noire, le taux est resté constant, en dessous de 40%. Il s'élève à environ 60% dans la population caucasienne. Il est aujourd'hui essentiel d'envisager le dépistage précoce comme une méthode permettant d'améliorer l'évolution du cancer de la bouche. Plusieurs avancées thérapeutiques ont été réalisées, mais ces progrès ne se sont pas traduits par une amélioration de la survie et une réduction de la mortalité, car le cancer de la bouche est toujours diagnostiqué à un stade avancé dans de nombreuses régions du monde. La solution réside donc dans le dépistage précoce. Pour détecter le cancer de la bouche de façon précoce, il existe un test simple, l'inspection visuelle de la bouche. Ce test peut être effectué très facilement dans tous les contextes sanitaires par de nombreux prestataires, docteurs, infirmières et professionnels de santé. Nous avons déjà clairement précisé que le cancer de la bouche peut faire l'objet d'une prévention primaire en éliminant les facteurs de risque. De nombreuses études ont démontré que l'inspection visuelle de la bouche, en tant qu'outil de dépistage, a une sensibilité et une spécificité acceptables. La sensibilité varie de 72 à 80% pour le dépistage des lésions de la bouche, et la spécificité varie de 85 à 95%. De nombreuses études se sont intéressées aux performances de l'inspection visuelle de la bouche en tant qu'outil de dépistage. Cependant, aucune étude bien menée n'a évalué l'efficacité du dépistage du cancer de la bouche dans la réduction de la mortalité associée à ce cancer. Le Regional Cancer Center de Trivandrum, Inde, et le Centre international de recherche sur le cancer, Organisation mondiale de la santé, ont collaboré à la mise en place en 1995 de l'essai de dépistage randomisé, contrôlé par groupe, dans le district de Trivandrum. Cet essai a pour objectif d'évaluer l'efficacité du dépistage du cancer de la bouche par inspection visuelle de la bouche dans la détection des stades précoces de cancer de la bouche et dans la réduction de la mortalité associée à ce cancer, d'analyser les facteurs qui déterminent la participation au dépistage de la population cible, et enfin d'évaluer le rapport coût-efficacité du dépistage du cancer de la bouche dans la réduction de la mortalité associée à ce cancer. L'étude a été menée dans le district de Trivandrum, à proximité de la ville de Trivandrum, la capitale de l'État de Kerala. Elle a impliqué 13 régions administratives, appelées panchayats. Le district de Trivandrum, tout comme l'État de Kerala, compte une très large population. Dans une région aussi peuplée, un essai d'intervention randomisé fondé sur la randomisation individuelle est difficile à mener et peut conduire à une contamination considérable. Pour contourner cette difficulté, nous avons décidé d'effectuer un essai d'intervention randomisé par groupe. Nous avons envisagé la façon dont nous allions organiser ces groupes. Initialement, nous avions décidé d'utiliser des groupes de petite taille. Cependant, il y avait un risque de contamination. Nous avons donc finalement décidé d'inclure 13 groupes, chaque panchayat étant considéré comme un groupe. 6 panchayats ont été randomisés vers un groupe témoin, où les sujets ont reçu les soins habituels, c'est-à-dire une éducation sanitaire entre autres activités, et une prévention sur les effets du tabac. 7 groupes ont été randomisés vers le groupe intervention. Un dépistage du cancer de la bouche a été effectué par des professionnels de santé formés, une fois tous les 3 ans, chez des sujets âgés de 34 ans ou plus. Comme je l'ai dit précédemment, le dépistage a été effectué tous les 3 ans, 3 fois maximum. Les sujets dépistés positifs lors du dépistage ont été adressés à des dentistes et des médecins pour une confirmation diagnostique. Un traitement a été administré aux sujets atteints de lésions précancéreuses et de cancer. Un suivi de l'ensemble de la population de l'étude a été effectué pour déterminer l'incidence et la mortalité du cancer de la bouche et évaluer la réduction de l'incidence et de la mortalité. Pour revenir sur les méthodes utilisées, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, 13 panchayats ont été randomisés, 7 vers le groupe intervention et 6 vers le groupe témoin. Au total, l'étude a recruté environ 200 000 personnes. Environ 97 000 sujets composaient le bras intervention et environ 95 000 composaient le bras témoin. Les informations relatives aux facteurs socio-démographiques et aux habitudes de vie ont été recueillies dans les deux cohortes, à domicile, et par le biais d'entretiens individuels. Les sujets des cohortes intervention et témoins ont été sensibilisés aux aspects néfastes du tabac, à l'importance d'une consommation modérée d'alcool et à la nécessité de consommer plus de légumes verts et de fruits au quotidien. Les sujets âgés de 35 ans ou plus, en bonne santé, étaient éligibles pour le dépistage. Le recrutement a eu lieu au domicile des sujets et le dépistage a été effectué par des professionnels de santé à la lumière du jour. Entre 1996 et 2004, 3 séries de dépistage ont été effectuées à 3 ans d'intervalle. Les sujets dépistés positifs ont été orientés vers une confirmation diagnostique, une biopsie et des examens complémentaires. Les sujets chez qui des lésions précancéreuses ont été diagnostiquées ont été incités à interrompre leur consommation de tabac et d'alcool, et chaque fois que possible, une excision chirurgicale a été tentée. Les cancers de la bouche ont été traités soit par radiothérapie, soit par chirurgie, soit par les deux, selon le stade du cancer lors du diagnostic et conformément aux principes thérapeutiques établis. Quels sont les critères de positivité du dépistage? Les sujets éligibles ont été examinés par des professionnels de santé formés. La détection de lésions blanches, rouges ou nodulaires dans la cavité buccale, ne pouvant pas être enlevées, et évoquant une leucoplasie, une érythroplasie ou un Lichen-Planck. La découverte clinique d'une fibrose sous-muqueuse buccale ou la présence d'une excroissance suspecte ou d'un ulcère, susceptible d'être un cancer de la bouche, ont été des critères de positivité du dépistage. Les sujets présentant un ou plusieurs de ces critères ont été adressés à un dentiste ou un médecin pour un examen de confirmation. Cette diapositive montre la répartition des résultats du dépistage effectué par les professionnels de santé. Environ 87 000 personnes ont été examinées au moins une fois et plus de deux tiers ont été dépistées négatives. Environ 2,5% des sujets présentaient des lésions suggérant une leucoplasie homogène. Environ 2,2% présentaient des lésions suggérant une leucoplasie non homogène. Moins de 1% présentaient une fibrose sous-muqueuse. Environ 0,4% présentaient un ulcère ou une excroissance suspect. Un quart présentait des lésions telles que des ulcères aphteux, des gonflements bénins, etc., qui ont été considérées comme des lésions ne nécessitant pas d'examen. Pour 100 personnes dépistées par inspection visuelle de la bouche, environ 6 étaient dépistées positives. Lorsqu'ils se sont rendus chez le médecin ou le dentiste pour un examen de confirmation, les sujets dépistés positifs ont été minutieusement examinés, les résultats cliniques ont été relevés, et lorsque cela était nécessaire, une biopsie a été effectuée à l'aide d'une technique à l'emporte-pièce. Les spécimens ont été analysés par histopathologie. Nous allons désormais nous intéresser à la répartition des habitudes de consommation personnelle entre les groupes intervention et témoins. Chez les hommes et les femmes, la répartition des habitudes telles que la consommation de tabac à mâcher ou d'alcool était plus ou moins similaire entre les groupes intervention et témoins. Le nombre de fumeurs était un peu plus élevé dans le groupe intervention. La proportion de sujets sans habitude de consommation était similaire dans les groupes intervention et témoins. Jusqu'à présent, la répartition des principaux facteurs de risque du cancer de la bouche était plus ou moins similaire dans les groupes intervention et témoins, ce qui reflète le succès de la randomisation et conduit à des groupes comparables. D'autres caractéristiques socio-économiques et démographiques importantes étaient également similaires entre les groupes intervention et témoins. Par exemple, les facteurs indiquant le statut socio-économique, tels que l'éducation, le type de foyer et les revenus, étaient plus ou moins également répartis. La répartition des groupes d'âge et des sexes était également similaire. Au total, 35% des sujets ont été dépistés au moins une fois, 25% ont été dépistés au moins deux fois, et 30% ont été dépistés trois fois. Environ 9% des sujets n'ont pas participé au dépistage. Au total, environ 5145 sujets ont été dépistés positifs. 3218 d'entre eux ont consulté le spécialiste vers lequel ils avaient été adressés. Deux tiers des personnes dépistées positives ont donc effectué l'examen de confirmation. Quels indicateurs avons-nous utilisés pour contrôler la progression de l'étude et évaluer les résultats? Nous avons utilisé une série de critères d'évaluation des procédures et des résultats. Les critères d'évaluation des procédures étaient relatifs à la participation au dépistage, la proportion de sujets cibles ayant participé au dépistage, la proportion de sujets dépistés en positif ayant effectué les examens diagnostiques, la proportion de sujets dont la maladie a été confirmée ayant reçu un traitement, et le taux de positivité au dépistage. Nous avons utilisé deux séries de critères d'évaluation des résultats, les critères d'évaluation intermédiaires ou à court terme, et les critères d'évaluation finaux ou à long terme. Les critères d'évaluation intermédiaire étaient le taux de détection des lésions précancéreuses et du cancer, la proportion de lésions précancéreuses ou de cancer diagnostiquées chez 1000 personnes dépistées, la sensibilité du programme, qui correspond au nombre de cancers détectés lors du dépistage par rapport au nombre total de cancers diagnostiqués dans le bras intervention, la valeur prédictive positive du test de dépistage pour détecter les lésions précancéreuses et des cancers, la répartition par stade des cancers diagnostiqués dans les bras intervention et témoins, les probabilités de survie à 2 et 5 ans dans les groupes de l'étude, la proportion de décès parmi les sujets chez qui un cancer a été diagnostiqué, et le taux de létalité dans les bras intervention et témoins. Le critère d'évaluation finale était la réduction de la mortalité associée au cancer de la bouche. Quel était le taux de mortalité associé au cancer de la bouche dans le groupe intervention par rapport au groupe témoin? Dans quelle mesure ces taux sont-ils différents? Le taux de mortalité est-il moins élevé dans le groupe intervention? Et cela peut-il être attribué au dépistage? Quelles données avons-nous utilisées pour le contrôle et l'évaluation? Nous avons bien entendu exploité la base de données de l'étude. Toutes les données de l'étude ont été enregistrées sur des formulaires imprimés et les gestionnaires de données ont mis au point un logiciel pour entrer ces données. À tout moment au cours de l'étude, à mesure que celle-ci progressait, nous avions donc à notre disposition une base de données de l'étude. Nous y avons eu recours pour certaines des variables de procédure. Un registre du cancer basé sur la population contrôlait le taux d'incidence du cancer dans la population participant au dépistage. Nous avons donc pu obtenir les informations relatives au nombre de personnes ayant développé un cancer de la bouche et au nombre de personnes décédées du cancer de la bouche, et les mettre en relation avec les informations issues de notre base de données de dépistage. Il existe plusieurs bureaux de déclaration des décès rattachés au panchayat et à la municipalité. Nous avons pris contact avec eux et avons mis nos données en relation avec les leurs. Nous avons renforcé cette base de données liée à la mortalité. De plus, nous avons consulté les registres de données tenus par les églises et les mosquées, car certaines de ces données n'apparaissent pas dans les systèmes d'enregistrement des données du gouvernement. Pour achever le suivi dans sa totalité, nous avons activement suivi chacun des sujets par l'intermédiaire d'un service à domicile. Nous avons mis en place une méthode de suivi aussi exhaustive que possible, afin de recueillir de la façon la plus complète les données essentielles pour évaluer l'efficacité du dépistage. Nous avons déjà abordé certains des critères d'évaluation des procédures. Environ 90% de la population cible a été dépistée au moins une fois. Environ 2/3 des personnes dépistées positives ont consulté le spécialiste vers lequel elles avaient été adressées. Et plus de 75% des personnes chez qui un cancer a été diagnostiqué ont reçu un traitement. Une large proportion de personnes atteintes de lésions précancéreuses se sont vues conseiller d'interrompre la consommation d'alcool ou de tabac. Et environ 10% ont subi une excision de la lésion. Chez les autres sujets, l'excision ne pouvait pas être effectuée car les lésions étaient trop étendues. Vous savez certainement que la prise en charge des lésions précancéreuses de la bouche n'est pas aussi simple que celle des lésions cervicales intra-épithéliales. Nous allons désormais analyser plus en détail certains des critères d'évaluation des résultats. Cette diapositive présente la répartition par stade des cancers de la bouche diagnostiqués dans les groupes intervention et témoins. Dans le groupe intervention, environ 40% des personnes atteintes d'un cancer de la bouche étaient atteintes d'un cancer de stade 1 ou 2, contre 23% dans le groupe témoin, ce qui représente un écart significatif. Dans le groupe témoin, une large proportion de cancers était de stade 3 ou 4. 2/3 des cas de cancer de la bouche étaient de stade 2 ou 3. Ce graphique représente le taux de survie globale des patients atteints d'un cancer de la bouche dans les groupes intervention et témoin. L'écart est significatif, comme vous pouvez le constater. À 5 ans du diagnostic, environ 50% des patients atteints d'un cancer de la bouche avaient survécu dans le groupe intervention, contre environ 30% dans le groupe témoin. La différence s'accroît au fur et à mesure du suivi. Ce graphique montre le taux de survie de certains sous-groupes de patients. Dans le groupe intervention, la survie après un cancer de la bouche détecté lors du dépistage est bien plus élevée que celle après un cancer de la bouche détecté cliniquement ou entre deux séries de dépistage. La survie après un cancer de la bouche était similaire dans le groupe témoin et dans le sous-groupe de patients diagnostiqués entre deux séries de dépistage. Le pronostic le moins favorable était celui des sujets du groupe intervention n'ayant pas participé au dépistage, ce qui était prévisible. Ce graphique représente la survie après un cancer de la bouche selon le stade. La survie à 5 ans est d'environ 80% après un cancer de stade 1, contre 70% après un cancer de stade 2, environ 48% après un cancer de stade 3 et environ 15% après un cancer de stade 4. Cet organigramme résume la totalité de l'étude. Au total, 191 000 sujets ont été inclus dans les groupes de l'étude. Le groupe intervention était composé de 7 groupes, soit 96 000 sujets, au cours de la période de suivi d'une durée de 9 ans. Les personnes années d'observation étaient de 470 000. Le groupe témoin était composé de 95 000 personnes, réparties dans 6 groupes, et les personnes années d'observation s'élevaient à 420 000. Dans le groupe intervention, 90% des sujets ont participé au dépistage, 5,9% ont été dépistés positifs, soit environ 5145 personnes. 2/3 des personnes dépistées positives ont consulté le spécialiste vers lequel elles avaient été adressées. Un diagnostic de lésion précancéreuse a été établi chez 2252 personnes. 131 cancers de la bouche ont été détectés lors du dépistage et 74 cancers de la bouche ont été détectés cliniquement. Soit au total, 205 cas de cancer de la bouche ont été recensés dans le groupe intervention. Le taux d'incidence était donc de 43,7 pour 100 000. Dans le groupe témoin, 158 cancers ont été diagnostiqués au cours de cette période. Le taux d'incidence était donc de 37,6%. Le taux de détection est plus élevé dans le groupe intervention du fait du dépistage. De 1995 à 2004, soit une période de 9 ans, 77 décès par cancer de la bouche ont été enregistrés dans le groupe intervention, contre 87 dans le groupe témoin, soit 10 cas de plus dans le groupe témoin. Cet organigramme présente les résultats limités aux consommateurs de tabac et d'alcool. Ces personnes sont exposées à un risque très élevé de cancer de la bouche. De fait, pratiquement toutes les personnes atteintes d'un cancer de la bouche consomment de l'alcool et du tabac. Nous avons donc voulu restreindre l'analyse à ce groupe de personnes exposées à un risque très accru de cancer de la bouche. Dans le groupe intervention, 45 000 personnes avaient de telles habitudes de consommation, contre 39 000 dans le groupe témoin. Les personnes âgées sont indiquées sur l'organigramme. Environ 90% des personnes consommant du tabac ou de l'alcool ont participé au dépistage, un fait très intéressant. Environ 4 900 sujets ont été dépistés positifs et 3 040 ont été identifiés comme étant atteints d'une lésion. Comme vous pouvez le constater, pratiquement la totalité des lésions ont été détectées chez des personnes consommant du tabac ou de l'alcool. Dans le groupe intervention, 2 200 sujets étaient atteints de lésions précancéreuses, 130 de cancers détectés lors du dépistage et 60 de cancers détectés cliniquement. Au total, 190 cas de cancer ont été enregistrés dans le groupe intervention chez les consommateurs de tabac et d'alcool, contre 156 cas dans le groupe témoin. Ces chiffres se sont traduits par des taux d'incidence du cancer de la bouche s'élevant à 80 pour 100 000 dans le groupe intervention et 83 pour 100 000 dans le groupe témoin. 70 décès par cancer de la bouche ont été enregistrés dans le groupe intervention et 85 dans le groupe témoin. 15 décès supplémentaires ont été enregistrés dans le groupe témoin. Cette diapositive compare les taux d'incidence et de mortalité du cancer de la bouche dans les groupes intervention et témoin, exprimés par le risque relatif d'incidence ou de décès. Au total, si l'on inclut l'ensemble des sujets de l'étude, le rapport des taux d'incidence ou le risque relatif du cancer de la bouche était de 1,16, ce qui signifie qu'il y avait 16% de cas de cancer de la bouche supplémentaires dans le groupe intervention par rapport au groupe témoin en raison du dépistage, ce qui n'est pas statistiquement significatif. Le taux de mortalité par cancer de la bouche dans le groupe intervention était de 16,4 pour 100 000 contre 20,7 pour 100 000 dans le groupe témoin. Le risque relatif de décès était de 0,79, ce qui signifie qu'il y avait 21% de cas de cancer de la bouche en moins dans le groupe intervention, mais cela n'est pas statistiquement significatif. Lorsque l'on limitait l'analyse aux consommateurs de tabac et d'alcool, le rapport des taux d'incidence était pratiquement de 1, donc il n'y a pas de différence. Mais lorsque l'on compare la mortalité, le rapport des taux de mortalité était de 0,66, ce qui signifie que chez les consommateurs de tabac et d'alcool, le dépistage du cancer de la bouche était associé à une réduction de la mortalité de 34%, ce qui est statistiquement significatif. Les événements étaient très peu nombreux chez les non-consommateurs de tabac et d'alcool. L'étude n'avait donc pas la puissance adéquate pour évaluer la valeur du dépistage chez ces sujets. Ce que démontre clairement l'étude est que chez les consommateurs de tabac et d'alcool, qui sont exposés à un risque très élevé de cancer de la bouche, l'inspection de la cavité buccale à intervalles réguliers permet de détecter de façon très précoce les cancers de la bouche, et si un traitement approprié est administré, un grand nombre de décès peuvent être évités. Les résultats sont maintenant présentés en fonction du sexe. Chez les hommes consommant du tabac, le rapport des taux de mortalité par cancer de la bouche était de 0,57, ce qui indique une réduction de 43% de la mortalité associée au cancer de la bouche chez les hommes consommant de l'alcool et du tabac, ayant participé au dépistage, par rapport au groupe témoin. Chez les femmes, le rapport des taux de mortalité était de 0,78, ce qui indique une réduction de 22% de la mortalité associée au cancer de la bouche. Mais cela n'est pas statistiquement significatif. Un suivi plus long sera peut-être associé à davantage d'événements. Nous disposerons alors de résultats plus définitifs pour les femmes dans la période de suivi qui suivra. Les résultats de cette importante étude ont été publiés en 2005 dans la célèbre revue médicale de Lancet, dans le numéro 365, pages 927 à 933. Une lettre importante concernant cet article a été publiée dans la même revue, dans le numéro du 8 octobre 2005. Elle clarifie certains points soulevés par d'autres investigateurs. La taille importante de l'échantillon et la durée importante du suivi nous ont donné la possibilité d'étudier l'histoire naturelle des lésions de la bouche, par exemple la proportion de lésions précancéreuses de la bouche qui régressent, la proportion de lésions qui progressent vers un cancer invasif, ou encore la proportion de cancers qui persistent. Ces informations faisaient défaut dans les vastes études basées sur la population, et la plupart des informations disponibles concernant les lésions de la bouche étaient issues d'une sélection d'études basées en milieu hospitalier, à partir desquelles peu d'informations peuvent être extraites. Je pense que grâce à la durée importante du suivi, nous aurons la fantastique opportunité d'analyser l'histoire naturelle des lésions précancéreuses de la bouche d'une façon compatible avec les connaissances actuelles des lésions précancéreuses du col. Cela pour contribuer de façon considérable à la lutte contre le cancer de la bouche. Nos résultats préliminaires montrent que moins de 1% des leucoplasies homogènes ont progressé vers un cancer invasif, tandis que 90% ont régressé. Environ 1% des leucoplasies non homogènes ont progressé vers un cancer de la bouche, environ 82% ont régressé et environ 17% seulement ont persisté. Par ailleurs, environ 4% des lésions précancéreuses, soit les cas de fibrose sous-muqueuse, ont progressé vers un cancer invasif au cours des 9 ans de suivi et environ 71% ont régressé. On dit souvent que la fibrose sous-muqueuse est une maladie irréversible. Notre étude démontre clairement que la fibrose sous-muqueuse est réversible, même si la régression se produit dans des proportions bien moindres que pour la leucoplasie. Cependant, plus des deux tiers régressent vers la normale, ce qui constitue une donnée essentielle. Je pense que ces résultats devraient être considérés comme des résultats préliminaires. Des analyses plus approfondies sont en cours et les résultats devraient être publiés prochainement. Cependant, plus des deux tiers régressent vers la normale, ce qui constitue une donnée essentielle. Je pense que ces résultats devraient être considérés comme des résultats préliminaires. Des analyses plus approfondies sont en cours et les résultats devraient être publiés prochainement. Que peut-on conclure de cette étude? Une bonne participation au dépistage du cancer de la bouche a été enregistrée. Plus de 90% des sujets ont participé. Le taux d'acceptabilité de l'orientation vers un spécialiste est modéré, aux alentours de 62%. Une proportion significative de cancers de la bouche ont été détectés à un stade précoce grâce à ce dépistage, et une réduction significative de 33% de la mortalité associée au cancer de la bouche a été enregistrée chez les consommateurs de tabac et d'alcool. Le risque de cancer de la bouche est extrêmement faible chez les non-consommateurs de tabac ou d'alcool. En d'autres mots, le dépistage peut être limité aux consommateurs de tabac et d'alcool. Sur la base de cette étude, nous estimons que si un programme de dépistage du cancer de la bouche est mis en place et effectué dans différents contextes sanitaires à travers le monde, au moins 37 000 décès par cancer de la bouche pourront être évités à l'échelle mondiale. Voici le personnel de l'étude qui a participé à la mise en place de l'étude de dépistage dans le district de Trivandrum, ainsi que les investigateurs, le Dr Babu Massiou, le Dr Ramadas, le Dr Gigi Thomas, le Dr Tara Somanathan. Cette équipe s'est largement investie pour mener le premier essai randomisé de dépistage du cancer de la bouche dans le monde, qui fournit des données essentielles à la poursuite de la prévention du cancer de la bouche dans les années à venir. Les festivités, la vie et la culture sont très fortement valorisées en Inde. Pratiquement chaque jour, une festivité est organisée. Cette diapositive vous montre une festivité majeure qui se déroule dans la ville de Thrissur, au Kerala, le Thrissur Puram, où les deux principaux investigateurs de l'étude, le Dr Ramadas et le Dr Sankar, ont participé à la procession. La photo suivante vous montre les éléphants décorés qui composent les parades lors de la célébration festive, à laquelle participent des personnes de toutes les religions et qui transmettent ainsi un message de fraternité universelle. Cette étude a été financée grâce à une généreuse subvention de l'Association for International Cancer Research, St. Andrews, Écosse, Royaume-Uni. Ils nous ont fourni une aide très précieuse pour initier et mener l'étude. Sans leur soutien, cette étude n'aurait pas vu le jour. Nous profitons de cette occasion pour exprimer toute notre gratitude à l'Association for International Cancer Research et son personnel. Le ministère de la Santé et de l'Assistance Familiale, gouvernement du Kerala, nous a soutenus en fournissant l'infrastructure locale et le personnel de santé de la région. Le registre du cancer basé sur la population de Trivandrum a participé au suivi et à l'évaluation du projet. L'administration du district de Trivandrum nous a apporté son aide dans la mise en place de l'étude et le recueil de données associées à la mortalité. Bien sûr, nous sommes également très reconnaissants envers la population de Trivandrum pour sa coopération à cette étude. Merci de votre attention.